Alors, les habitués de l'Église savent que nous parcourons le prophète Ésaïe. Ça fait quand même depuis plusieurs mois, parce que de temps en temps, on s'arrête pour faire autre chose. Nous avions vu en début d'année les chapitres 23 et 27 d'Ésaïe, qu'on appelle l'Apocalypse d'Ésaïe. Parce qu'en fait, il y a plein de chapitres qui sont un peu regroupés par thématique. Alors, la thématique que nous avons pour les chapitres 28 au 31, les spécialistes qui sont penchés sur ce texte l'appellent le livre des malheurs, parce qu'on répète ce mot malheur continuellement, donc dans les chapitres 28 à 31. Et encore, comme nous l'avons vu la semaine dernière, je pense que le prophète a apporter ces différentes prédications ou prophéties à différents moments. Donc il y a des sous-groupes de versets en quelque sorte qui ont été rédigés ensemble, sans toujours dire pourquoi un verset se trouve, un texte se trouve à côté d'un autre. Donc on cherche à savoir pourquoi Ésaïe a mis tout cela dans l'ordre qu'il a choisi de faire. Ça fait partie de la préparation de la prédication, de chercher en fait les liens, pourquoi tout ça se passe dans l'ordre que nous avons dans nos Bibles. Donc certainement c'est Ésaïe lui-même qui a rédigé tout cela. Et je rappelle donc que la base de ce livre des malheurs est résumée au chapitre 31 et le verset 1. Pourquoi ces malheurs? C'est le verset qui résume bien ce que nous avons déjà vu la semaine dernière. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et placent leur confiance dans le grand nombre de chars et la force des cavaliers, mais qui ne portent pas leur regard sur le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Donc, je rappelle ce que j'avais dit la dernière fois. Donc, le roi Ézéchias, dont il est question, hein, qui a reçu un certain nombre de ses prophéties directement de la bouche d'Ésaïe, a fait la bêtise, si on peut dire, de vouloir se révolter contre l'empereur ou le roi de l'Assyrie, qui était le grand empire de l'époque, qui avait déjà vaincu le royaume du Nord, donc qu'on appelle Israël, avec la capitale à Samarie. Et il s'est dit, je vais prendre comme allié l'Égypte. L'Égypte va me défendre. Donc voilà, je peux me révolter, je ne veux pas payer des impôts et être sous la coupe de cet empire. Donc il a voulu se révolter. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Égypte n'a pas pu vraiment les secourir. Et c'est pour ça que ce verset que nous avons lu dit, donc malheur à ceux qui cherchent le secours en Égypte, qui s'appuient sur les chevaux, les chars, donc la force militaire de l'Égypte. Ézéchias aurait dû faire confiance à Dieu. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il a failli perdre gros, comme j'ai marqué là, parce qu'en fait le roi de la Syrie est venu, il a vaincu presque toutes les villes de Juda, donc le royaume du sud, il ne restait plus que Jérusalem. Et Jérusalem était assiégée. Donc ça veut dire que les armées étaient tout autour. Et finalement, Jérusalem va être délivrée, mais par l'intervention de Dieu. Donc l'histoire est racontée dans les chapitres 36 à 39 d'Ésaïe, que l'on verra un petit peu plus tard. Voilà. Je ne vais pas dire plus, autrement c'est le spoiler, comme on dit, pour les films. Donc je ne vais pas dire plus, mais l'Éternel intervient. Donc ça, on va voir. Alors, comment on va découper ce chapitre? Il y a quatre parties. D'abord, il y a l'horreur de cet état de siège, mais aussi la délivrance de Dieu. Ensuite, versets 9 à 12, le peuple aveugle spirituellement, ne comprend pas la façon dont l'Éternel agit. Ensuite, on va voir deux mauvaises attitudes et la réponse de Dieu. Et ça va terminer de façon très positive avec un avenir glorieux. Donc, Si je résume autrement, c'est que la première partie, l'horreur de l'état de siège, c'est quand même Dieu qui est derrière tout ça. Comme il le sera pour l'avenir glorieux qu'il réserve pour nous. Donc au milieu, les versets 9 à 16, Dieu renvoie la balle vers son peuple pour dire « Est-ce que vous avez la bonne attitude ?» Donc, puisque nous l'avons déjà lu dans l'épître de Paul aux Romains, toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction, donc c'est la partie du milieu qui nous pose la question « Est-ce que nous réagissons bien dans notre relation avec Dieu, qui lui est quand même le maître de l'histoire ?» Donc, vous voyez, on va attaquer donc avec ces quatre parties. Donc l'horreur de l'état de siège. J'ai même mis une image. Le siège, à certains moments, ils ne s'attaquaient pas forcément. Parfois, ils attendaient autour que le peuple se rende parce qu'il n'y avait plus rien à manger ni à boire. Mais on va lire ces versets de 1 à 8. Malheur, bon, c'est le cas de la dire, hein, je dis que c'est le livre des malheurs. Malheur à Ariel, c'est un synonyme de Jérusalem. Malheur à Ariel, oui, à Ariel, la ville où David a installé son camp. Ajoutez une année à celle-ci, laissez les fêtes accomplir leur cycle, puis je harcèlerai Ariel. On n'y entendra plus que des plaintes et des gémissements, et la ville sera pour moi comme une fournaise. De tous côtés, j'installerai mon camp contre toi. Je t'entourerai de postes armés. Je dresserai des retranchements contre toi. Tu seras abaissé au point que tu parleras par terre. Que tes propos seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre. Et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours. Mais tes ennemis seront réduits en fine poussière. Cette foule d'hommes violents sera emportée comme de la paille. Et cela arrivera tout un coup, en un instant. Tu verras l'intervention de l'Éternel, le maître de l'univers, accompagné de coups de tonnerre, d'un tremblement de terre, d'un grand bruit, de l'ouragan, de la tempête, de la flamme d'un feu dévorant. Toute la foule des nations venues combattre Ariel, donc Jérusalem, tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la harcèleront, disparaîtront comme un rêve, comme une vision nocturne. Toute la foule des nations venues combattre le mont Sion sera pareille à celui qui a faim. Il rêve qu'il mange avant de se réveiller, l'estomac vide. Elle sera pareille à celui qui a soif. Il rêve qu'il boit avant de se réveiller, épuisé, la gorge sèche. Donc c'est vrai que cette ville que David avait conquise, qui s'appelait Yébouz à l'origine, la ville des Jébusiens, va être entourée et assiégée. Au verset 3, on parle donc de ces ouvrages de siège. La ville sera entourée de postes armés, de retranchements. On faisait toutes sortes de choses pour pouvoir s'attaquer à la ville. On construisait des machines de guerre qui permettaient aux gens de s'approcher et être à la même hauteur que ceux qui étaient sur la muraille. On avait des catapultes qui envoyaient des grosses pierres. Voilà, on voit les pierres lancées sur ceux qui s'attaquent, mais qui se couvrent de boucliers. Voilà, il venait des fois avec des grands béliers, comme il disait, pour essayer de faire tomber les portes de la ville. C'était un moment difficile, hein. Et à un certain moment, ils vont avoir faim et soif. Dans ce verset, on parle de c'est la poussière que tu murmureras tes discours. Et d'ailleurs, le chef de l'armée des Assyriens, au chapitre 36, parle à ceux qui sont les murailles, qui dit, vous allez finir par... C'est le texte même qui le dit, par manger vos excréments et pour boire votre urine, parce qu'il n'y aurait plus rien d'autre à manger et à boire. Donc il est nargue, il a dit, mais rendez-vous, ce serait mieux. Ce sont donc les Assyriens qui assiègent Jérusalem. Mais est-ce que vous avez remarqué dans le texte quelque chose d'extraordinaire? Par exemple, verset 3, Dieu dit, « J'installerai mon camp contre toi. Je t'entourerai de postes armés. » C'est comme si c'est Dieu qui est là pour assiéger la ville. Il fallait que dans le plan de Dieu, il fallait que cela arrive. On peut se poser la question pourquoi. Je pense qu'une première raison, comme on a déjà vu dans Ésaïe, c'est que Dieu voulait amener à la repentance son peuple. Et finalement, ils ne sont pas tournés vers lui, donc ils ont été emmenés en exil, finalement à Babylone. Mais aussi, Dieu voulait montrer qu'il est incapable d'intervenir, lui, quand tout espoir semble perdu. Donc, c'est bien le Dieu qui dit « J'installerai mon camp contre toi, verset 3, je t'entourerai des postes armés, je dresserai des retranchements contre toi. » Mais c'est aussi lui qui dit, au verset 6, « Tu verras l'intervention de l'Éternel, le maître de l'univers. » Et là, il y a tout un changement de décor où les Assyriens venus assiéger la ville sont dispersés, comme la poussière. Leurs rêves vont disparaître, comme Esaïe dit, comme quelqu'un qui a faim, qui rêve qu'il est en train de manger, puis il se réveille, puis il n'a rien. Ou quelqu'un qui a soif, qui rêve qu'il boit, mais il se réveille épuisé, la gorge sèche. Donc leur rêve de faire tomber Jérusalem va disparaître comme un rêve qui n'est pas la réalité. Donc voilà la première partie, cette description du siège de la ville et de l'intervention de Dieu. Alors on passe à la deuxième partie qui concerne le peuple de Dieu. Le peuple aveugle spirituellement ne comprend pas la façon dont l'Éternel agit. Alors je vais lire les versets 9 à 12. Restez bouche bée, stupéfaits. Collez-vous les yeux, devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas à cause du vin. Ils titubent, mais ce n'est pas sous l'effet des liqueurs fortes. En effet, l'Éternel a déversé sur vous un esprit de torpeur. Prophète, il a fermé vos yeux. Voyant, il a couvert votre tête. Toute cette vision est devenue pour vous parée au mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire, en lui disant, lis donc ceci. Il répond, moi je ne peux pas, car il est cacheté. Elle est devenue pareille à un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en lui disant, lis donc ceci. Il répond, mais je ne sais pas lire. Il faut donc qu'il y ait du discernement spirituel. Il faut que les habitants de Jérusalem, mais puisque toutes ces choses sont écrites pour notre instruction, que nous demandions aussi ce discernement spirituel pour comprendre ce qui se passe et surtout pour faire confiance à Dieu. Au chapitre 28, on a déjà lu la semaine dernière à la fin de ma prédication, ce que vous appelez une parabole agricole. Je ne vais pas revenir à cela dans le détail. Mais Dieu dit en quelque sorte, alors, les êtres humains ont compris, c'est les versets 26 et 29, ont compris comment semer les différentes graines, comment il fallait utiliser différentes parties du champ, comment labourer de façon différente, etc., pour que la graine donne un maximum de fruits. Et puis, quand le fruit est là, ils ont compris qu'il fallait le traiter de façon différente. Certains, il fallait vraiment des grosses pierres de meule, d'autres, il fallait être beaucoup plus souple, simplement avec un bâton pour faire ressortir la semence de la plante. Et Esaïe dit chaque fois, verset 26, « Son Dieu lui a enseigné la règle à suivre. » Aussi 29, cela aussi vient de l'Éternel, le maître de l'univers. Il distribue de merveilleux conseils et augmente les capacités de discernement. Donc, les êtres humains ont compris à discerner les choses dans le monde, comme Jésus a dit d'ailleurs, on l'a cité aussi la semaine dernière. Vous savez voir que quand le ciel est rouge le matin, il va pleuvoir, quand le ciel est rouge le soir, il va faire beau, quand le vent vient du sud, il va faire chaud, etc. Et Ésaïe, comme Jésus pose, bon, Jésus l'a dit très, très clairement, Ésaïe ne le dit pas, mais on comprend dans le contexte. Vous savez, vous avez fait des études, vous avez compris, Dieu vous a aidé à comprendre comment vivre sur le plan matériel, mais il faut la même compréhension spirituelle. Et c'est vrai que on peut dire en quelque sorte, moi je vois quelqu'un ici qui étudie la médecine, je vois quelqu'un d'autre qui travaille avec les ordinateurs, enfin, je vois différentes personnes dans la salle qui ont compris, comme d'autres ont pu comprendre comment marche une voiture ou comment faire la cuisine, enfin tout ça. Et Dieu nous a donné, nous, êtres humains, ces capacités extraordinaires. Comme quelqu'un m'a dit il y a quelques semaines, mais qui aurait eu la pensée que le sable puisse être transformé en verre? Comment les êtres humains ont réussi? Comment on savait que en faisant cuire tel ou tel légume de telle ou telle façon, il devenait possible de le manger et que c'était très bon, et puis on le coupe en morceaux, ça fait des frites. Mais quand on voit une pomme de terre qui sortait de la terre, Dieu a donné cette intelligence aux hommes, mais il faut qu'on ait la même intelligence spirituelle. Et pour ça, il faut que le livre ne soit pas cacheté, et qu'il faut que l'on sache aussi lire ce livre qui est la parole de Dieu. Donc ça, c'est vraiment important. Sinon, et je crois que c'est un message important, sinon qu'est-ce qui se passe? Si le message d'Isaïe, c'est « il faut faire confiance à Dieu », on dit « ok, je fais confiance à Dieu », mais ça ne veut pas dire que je reste passif. La confiance ne veut pas dire passivité. Et il faut aussi que l'on cherche à connaître Dieu, qu'on cherche à connaître sa parole. Il va nous aider à grandir dans la foi. Hein? Confiance ne veut pas dire « je ne fais rien du tout ». Comme j'ai souvent posé la question, quand Jésus a dit que l'on doit rester attaché en tant que sarment à la vigne, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bon, est-ce que ça veut dire, avec moi, vous n'avez rien à faire, ou avec moi, vous pouvez tout faire? Donc c'est le deuxième, hein, je puis tout par celui qui me fortifie, Philippiens 4. Donc, nous avons à faire confiance à Dieu, et aussi à progresser en connaissance spirituelle pour avoir ce discernement. Et c'est là que l'on voit, dans les versets qui suivent, de mauvaises attitudes et la réponse de Dieu. Donc, je lis maintenant les versets 13 à 16. Le Seigneur dit, « Ce peuple s'approche de moi et m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. C'est pourquoi je continuerai à étonner ce peuple par des merveilles et des miracles, de sorte que la sagesse de ces sages disparaîtra, et l'intelligence de ces hommes intelligents devra se cacher. Malheur, encore une malheur, malheur à ceux qui cherchent à s'éloigner le plus possible de l'Éternel, afin de lui cacher leurs intentions, qui agissent dans les ténèbres et qui disent « Qui peut nous voir? Qui peut savoir ce que nous faisons? Quelle perversité que la vôtre! Va-t-on assimiler le potier à l'argile pour que l'objet puisse dire de celui qui l'a fait, il ne m'a pas fabriqué, pour que le vase puisse dire de celui qui le façonne, il n'a pas d'intelligence? » Donc voilà, deux mauvaises attitudes et la réponse de Dieu. Le premier, c'est « ce peuple m'honore des lèvres ». D'ailleurs, Jésus a cité ce verset dans Matthieu 15, hein, donc c'est que l'on joue à la religion. On fait tout comme il faut. Dans le cas de Jésus, il parlait à des personnes qui ne venaient pas en aide à leurs parents, alors que le commandement, un des commandements, des 10 commandements, c'est il faut honorer ton père, tu honoreras ton père et ta mère. Et certaines personnes disaient, bon, je veux bien honorer mon père et ma mère, mais je n'ai rien à leur donner. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, cet argent-là, je l'ai promis à Dieu, je ne peux pas le donner à quelqu'un d'autre. Donc le mot, c'est corban, donc dans le mot du Nouveau Testament. Donc il essaie de profiter de la religion pour ne pas faire ce qu'il fallait faire. Et donc de la même façon, les Juifs ici, ils disaient, voilà, on fait confiance à Dieu, mais les Égyptiens, c'est peut-être plus sûr. Mais non, pas du tout. De la même façon, il ne faut pas dire parce que c'est parce que je viens au culte régulièrement, que je connais tous les chants dans Gem 1 et Gem 2 et Gem 3, et encore, encore plus parce que je regarde YouTube tous les jours. C'est pas ça. C'est pas des lèvres quand son cœur est éloigné de moi. Ça, c'est vraiment un principe. Et que dit Dieu à ce moment-là? Je vais intervenir, je vais faire des merveilles et des miracles. Donc, c'est lui qui va intervenir, en fait, pour faire disparaître cet envahisseur. Et à ce moment-là, on va voir que la sagesse des soi-disant sages qui pensaient compter sur Égypte est dépassée parce que Dieu est plus sage. Il est plus sage que les soi-disant sages. Et il dit que la sagesse de ces sages disparaîtra et l'intelligence de ces hommes intelligents devra se cacher. Encore un verset qui est cité dans le Nouveau Testament, cette fois-ci par l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, quand les sages, les Grecs, faisaient confiance à toute leur philosophie, ils se croyaient sages et intelligents par rapport à la simplicité de l'annonce de l'Évangile, et Paul dit, en citant ça, « De sagesse des sages disparaîtra », etc., parce que finalement, ça a l'apparence très sage, mais ce n'est pas la vérité, en fait. Donc, première mauvaise attitude, et c'est pour cela qu'il faut pas rester passif, il faut corriger cela, et en connaissant les Écritures, en priant, en nous encourageant les uns les autres à vraiment honorer Dieu de notre cœur et non pas simplement de l'extérieur, de nos lèvres ou de notre bouche. Et la deuxième, ce malheur pour ceux qui pensent pouvoir se cacher devant Dieu. On peut être étonné de cela, mais il y a d'autres textes de l'Ancien Testament dans les psaumes où les gens disent, mais il y a un psaume par exemple qui dit, voilà, Dieu ne me voit pas, je peux faire ce que je veux. Et quand on étudiait Job à l'étude biblique le mercredi soir, il y avait un certain moment quelqu'un qui a dit, mais vous voyez, il y a plein de nuages au-dessus de notre tête, à ce moment-là, Dieu n'arrive pas à nous voir. Mais c'est tellement ridicule, le raisonnement des gens. Mais on l'a lu dans Job, hein, certains ont raisonné comme ça. Ils se prennent pour qui? Ils se prennent pour qui? Parce que finalement, la réponse d'Ésaïe, c'est bah, « Nous sommes l'argile et Dieu est le potier. » Bon. D'autres prophètes ont utilisé cela, et même Paul le cite d'ailleurs dans Romains. Le potier décide, c'est pas l'argile. Alors qu'un petit être humain qui ne fait même pas 2 mètres de hauteur pour la plupart des êtres humains, qui ne vit un maximum une centaine d'années, disent, bon, moi, je sais mieux que Dieu. C'est quand même un peu osé, un peu audacieux. Et donc, il faut rester dans l'humilité pour dire, Dieu est le maître de l'histoire, le maître de l'univers. Donc, 2 attitudes à corriger si on veut vraiment vivre une vie avec Dieu. Et puis, bon, on avait dit que Dieu est intervenu pour assiéger la ville, Dieu est intervenu pour délivrer. On peut aussi penser à des situations dans lesquelles on se trouve. On dit, voilà, il semble pas, peut-être qu'il y a des difficultés, on voit pas l'issue. Dieu peut intervenir à partir du moment où on a une attitude où notre cœur est juste et droit devant Dieu et on ne prétend pas se débrouiller sans lui. Et à ce moment-là, à la fin de ce chapitre, il y a une partie remarquable que nous allons lire, des promesses où Dieu va intervenir, certes, pour délivrer la ville, mais ce qu'on va lire est tellement remarquable que l'on voit que, en fait, dans cet oracle, que les âges se télescopent et que le prophète annonce à la fois les événements de 100 ans, donc la délivrance de Jérusalem, mais aussi les événements relatifs au temps messianique, quand le Messie viendra, donc Jésus viendra, mais surtout lors de son retour, de la fin du monde, de la création de nouveaux cieux et de la nouvelle terre, hein, pour citer un des derniers versets dans Ésaïe. Et à ce moment-là, on va voir ce qui est annoncé et que l'on va retrouver, hein, on va dire, dans la fin de la Bible, dans l'Apocalypse aussi. Mais moi, je trouve que cette description de l'éternité qui nous attend, il n'y a pas mieux dans la Bible, en fait, que cette fin du chapitre 29. Je vais le lire. Encore très peu de temps, et la forêt du Liban se transformera en verger, tandis que le verger sera assimilé à une forêt. Ce jour-là, les sourds entendront la lecture du livre, et délivrés de l'obscurité des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les humbles trouveront de plus en plus leur joie en l'Éternel. Les plus pauvres de l'humanité seront remplis d'allégresse grâce au sein d'Israël. En effet, l'homme violent ne sera plus là. Il n'y aura plus de casseurs. Le moqueur aura disparu. Ils seront éliminés, tous ceux qui n'attendaient qu'une occasion pour faire le mal. Ceux qui condamnaient un homme pour un mot, on peut comprendre un mot déplacé. Ceux qui tendaient des pièges à celui qui défendait sa cause à la porte de la ville et écartaient les justes par des accusations sans fondement. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, lui qui a racheté Abraham à la famille de Jacob. Désormais, Jacob ne rougirait plus de honte. Désormais, son visage ne pâlira plus. En effet, lorsque ses enfants verront ce que j'accomplirai au milieu d'eux, ils reconnaîtront la sainteté de mon nom. Ils reconnaîtront la sainteté du Saint de Jacob. Ils redouteront le Dieu d'Israël. Et ceux dont l'esprit s'égarait sauront ce qu'est l'intelligence, et les protestataires se laisseront instruire. Moi, je trouve ça un très beau texte. Un très beau texte. On a du mal à imaginer comment ça peut se faire. J'espère, enfin, tout ce que j'espère, je sais que l'on commence à vivre un petit peu tout cela, déjà sur la terre, entre frères et sœurs, dans l'Église. Où on cherche à nous aimer les uns les autres, parce que c'est le plus grand des commandements, qui est similaire au premier, donc tu aimeras le Seigneur tout ton être. Et c'est vrai qu'il y a des moments vraiment de paix et de joie parmi nous que l'on ne peut pas trouver ailleurs. Mais on sait très bien que la réalisation totale de cela ne pourra pas se faire sur la terre. C'est lorsque Dieu créera le nouveau ciel et la nouvelle terre où la justice habitera, comme dit Pierre dans sa deuxième lettre, chapitre 3, en citant d'ailleurs Ésaïe. Et il n'y aura plus de violence, plus de mensonges, plus d'accusations sans fondement. Si on est aveugle, que ce soit physiquement ou spirituellement, on verra. Si on est sourd, physiquement ou spirituellement, on entendra la lecture du livre, on comprendra. Ceux qui étaient un peu sans intelligence, l'esprit qui s'égarait, comprendront totalement. Comme Paul écrit dans 1 Corinthiens 13, actuellement on ne voit que partiellement, comme dans un miroir. On pense que c'est le miroir qui était la bronze, fait de bronze, très poli. Je l'ai vu dans le musée du Louvre, mais on ne voit pas très bien. Mais un jour on verra et on comprendra, on connaîtra même, comme nous avons été connus. Ça, c'est ça qui nous attend. C'est notre espérance. Et en attendant, notre devoir à nous, c'est de faire confiance à Dieu et apprendre à vivre par la foi, selon tout ce qu'il a révélé. On appelle ça l'obéissance. On vit à la lumière de tout ce qu'il a révélé, c'est ça la foi. Et en attendant cet aboutissement, la réalisation de ce que Dieu voulait dès le départ et qu'il va refaire avec ses rachetés. Moi, je trouve cela un message extraordinaire. C'est soit on vit avec Dieu, soit on vit sans lui. Et si on vit avec lui, tant qu'à faire, allons jusqu'au bout, dans notre foi et notre confiance et notre obéissance. Parce que c'est un peu ridicule d'avoir les pieds dans deux camps. C'est ce que Élie a dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés, jusqu'à quand mettrez-vous un camp dans le monde et un pied dans le camp de Dieu. Donc soyons logiques jusqu'au bout. Et on va chanter un chant qui nous permet donc de concrétiser cela. Donc, je vais demander à Michel de venir, c'est dans À toi la gloire 321.